Alors là, peut-être pour les auditeurs, la ripisylve, tu l'as déjà dit, mais donc c'est la forêt de rivière, comme son nom l'indique, et c'est un mot rigolo et joli, et qui n'est pas utilisé dans d'autres langues en plus. C'est un mot qui a été créé par les Français, je ne sais pas trop comment, ça peut-être on le coupera. Mais la ripisylve, c'est comme tu dis, c'est le long des rivières, donc c'est un habitat qui est seulement linéaire en fait. Et ici, il est surfacique, c'est-à-dire que vous avez, comme c'est comme vous aviez une grande rivière. Surfacique, ce qui n'a pas de sens, quoi. Et cette ripisylve est donc refuge pour tout un tas d'espèces. Alors j'imagine des espèces végétales, mais aussi des espèces animales. Et peut-être même des champignons, qui sait?
Alors, les champignons, c'est vraiment un domaine où on ne s'est pas avancé encore. On fait une étude sur les lichens, parce que les lichens rentrent dans le cadre de notion de pollution, en
Oui,
fait,
bien sûr,
avec
oui.
ça. Par contre, les cortèges faune-flore sont assez bien suivis. Et effectivement, on s'aperçoit que ces grandes zones refuges permettent la venue d'espèces qui normalement sont assez farouches. On peut citer par exemple l'oriole d'Europe,
Ah oui?
qui est un oiseau
C'est beau ça.
qui est très intéressant, mais qui voilà, affectionne des grandes unités foncières comme ça. On a aussi du guêpier et du rolier d'Europe.
C'est le safre.
Voilà, donc plutôt sur des zones un peu de milieu ouvert, mais
C'est des oiseaux ça.
voilà, donc le rolier d'Europe est un oiseau qui utilise les cavités des arbres pour faire son nid et se reproduire. Donc c'est complètement lié au fait qu'on a des grands arbres de type
Ripisylve, quoi.
voilà, avec une notion de vieillesse qui entraîne des parties mortes, nécrosées, et dans lesquelles en fait on peut avoir des espèces qui se logent beaucoup plus facilement.
Oui, donc dans la ripisylve, on va retrouver du peuplier, du saule, donc tous les arbres de la rivière, en quelque sorte. Et si on voulait peut-être se faire rapidement une petite cartographie mentale du site, les grands types d'habitats qu'on a ici, donc en partant de l'eau et en allant jusqu'à la pinède, par exemple, qu'est-ce qu'on a comme grande unité d'habitat?
Excuse-moi, et peut-être aussi en expliquant qu'on est au bord, on l'a pas dit, je crois,
Oui.
qu'on est au bord de l'étang de Berre. Et donc il y a une eau douce qui aussi alimente le site, peut-être aussi par rapport à la topographie même générale du site.
C'est un site qui est au nord de l'étang de Berre, effectivement, et qui a les pieds dans l'eau. Donc, comme on disait tout à l'heure, ça part des falaises hautes et pour finir, les pieds dans l'eau avec un gradient en fait qui est lié aux habitats et à la particularité, c'est que l'étang étant salé, en bordure littorale, on a un milieu qui est complètement salé, qu'on appelle de type halophile, avec des plantes qui sont adaptées au sel. Et notamment, on appelle un milieu de sansouïre avec tout un cortège de salicornes, d'aubiones, de joncs maritimes, voilà, et du tamaris, les fourrés de tamaris étant la partie la plus haute de ce milieu-là, typiquement salé. Et puis, en fait, sur le site s'établit un biseau salé lié au fait que l'eau douce parcourt le site en grande partie sur pas mal de secteurs. Et dès lors que ce biseau s'installe, en fait, on voit vraiment une différence de végétation avec cette forêt humide qui prend le relais quand l'eau douce est présente. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs secteurs sur le site où l'introduction d'eau douce a été abandonnée. Et on a ce gradient salé qui remonte dans les terres et qui fait venir en fait cette végétation plutôt halophile, avec la particularité que dans les années 2000, en fait, dans le plan de gestion, c'est-à-dire le cahier des charges, quand le conservateur du littoral a récupéré le site, il a fait faire un plan de gestion. Et ce plan de gestion, on disait à l'intérieur que ces remontées salines, il fallait les combattre pour justement éviter que cette eau salée remonte et tue une grande partie de la végétation. Or, on s'est rendu compte que dans la majorité de ces secteurs où l'eau salée est remontée, en fait, on a des habitats d'intérêt prioritaire avec des espèces protégées. Donc on a fait complètement machine arrière aujourd'hui. Et cette naturalité est de fait aussi laissée dans la gestion hydraulique.
Oui. Et tu peux juste nous rappeler d'où vient l'eau douce, là ?
L'eau douce est issue de plusieurs sources, on va dire, notamment par des sources aussi qui coulent en permanence toute l'année, des canaux d'irrigation liés aux grands travaux qui ont irrigué les plaines de Provence avec des surverses de canaux et des fonctionnalités un peu particulières. Aujourd'hui, on a créé un projet d'une roue à OG sur les moulins à poudre. Et l'eau qui est utilisée, par exemple, c'est de l'eau issue d'une surverse d'une microcentrale. Et on la réinjecte dans le site. C'est cette eau-là qui devait partir là où il y avait des problèmes de biseau salé. Et qu'on a dû détourner pour faire... pour envoyer plutôt dans la forêt hygrophile.
D'accord. Et est-ce qu'il y a une gestion de la faune sur le site ou est-ce que vous prenez soin vous-même des différentes espèces qui sont là ? Comment ça se passe exactement ? Vous les laissez venir ? Ah ouais, on va attendre. Tu peux peut-être expliquer où on est aussi ?
On est dans un musée qui est à l'intérieur du site, qui est accessible au public.
Oui.
Et en fait, on a chiné tout ce qu'on a retrouvé sur site, qu'on a mis à disposition du public, avec aussi de la documentation liée à des archives.
Oui. Et là, ce qu'on entend passer à chaque fois, c'est tout le...
C'est le personnel, en fait, qui fait partie du site et qui entretient le site, effectivement.
Oui. C'était sur la faune. Qu'est-ce que c'est de s'occuper de la faune, de protéger la faune sur un site comme ça ?
Alors, ce serait pompeux de dire qu'on modifie et qu'on s'occupe de la faune, puisque par excellence, en fait, la nature fait vraiment ce qu'elle veut. On l'a appris justement à nos dépens en réalisant notamment par exemple des nichoirs pour certaines espèces d'oiseaux, comme les roliers, des plateformes pour les cigognes, et on s'est rendu compte en fait que ça marchait pas forcément. Et donc on est resté humble par rapport à tout ça. On travaille sur plutôt l'aspect éducation à l'environnement. Donc quand on arrive à avoir une espèce comme la cigogne qui est venue sur site depuis 2007 avec un seul couple, et qui 10 ans après, ça devient une colonie, puisqu'aujourd'hui on a 31 individus avec plus de 10 couples reproducteurs.
Ouais.
On a 24 cigognos en ce moment.
Qui viennent de naître,
oui.
D'accord.
Sur la proportion des nids, en fait, il y a 3 nids qui sont artificiels, donc des plateformes qu'on a mis en place dans les arbres. Tout le reste, c'est complètement naturel. Donc,
Et les nids des cigognes sont sur les arbres, du coup, les nids naturels ?
C'est des grands arbres, qui sont sur la partie de Saint-Chamas.
Ben dis donc. Et on peut peut-être, du coup, continuer le détail des espèces un peu emblématiques du site, de faune, mais aussi de flore. Alors, les oiseaux, on a vu, les mammifères, je ne sais pas s'il y a du sanglier, des choses comme ça, qui arrivent à pénétrer sur le parc.
Oui, oui,
j'imagine.
Ils sont assez présents et intéressés sur le site, puisque c'est un site qui est non chassé.
Ah oui.
Et c'est un site qui est entre deux domaines de chasse.
Ah d'accord.
Donc on a plutôt l'impression qu'en période de chasse, on a de l'affluence du sanglier qui vient.
Et d'autres petits mammifères, vous en avez beaucoup ?
On a beaucoup de petits mammifères, mais qui sont issus des... Il n'y a pas d'espèces protégées en tant que telles. On a effectivement des écureuils, des hérissons.
Ah oui. Est-ce que je voulais savoir ?
On a...
Il y a des tortues aussi, je crois.
Alors, au niveau reptile, effectivement, on a une tortue aquatique qu'on appelle la cistude d'Europe, qui est une tortue qui vit en France, pour laquelle on a fait des travaux de suivi depuis 2012.
Qui est protégée ?
Espèce protégée, et c'est une tortue qui souffre de la réduction de ses habitats, un peu comme comme toutes les espèces de tortues qui sont des espèces longévives, qui vivent très longtemps et qui du coup perdent des habitats liés au fait de l'urbanisation, des axes routiers qui coupent complètement leurs habitats. Et le but du plan national d'action, qui est le suivi au niveau national, c'était de vérifier que les espèces, les individus ne viennent pas, enfin, les populations ne se referment pas sur elles, et qu'on ait après à terme une disparition de ces espèces-là. Donc nous, on a intégré ce plan national d'action avec un suivi qu'on a réalisé en interne, qui était ce qu'on appelle une CMR, capture, marquage, recapture, qui consistait à poser des pièges.
Pour évaluer la taille de la population.
Voilà, pour évaluer la taille de la population, pour évaluer le sexe ratio, la différence entre les mâles et les femelles, l'âge. Et effectivement, ça nous a conforté puisqu'on a trouvé des jeunes, on a trouvé des femelles gravides, c'est-à-dire qu'il y avait des œufs. Donc pour ce côté-là, on est plutôt rassuré. Ce qui serait intéressant de voir maintenant aujourd'hui, c'est voir s'il y a des échanges de population entre les autres sites autour de l'étang de Berre, par exemple.
Oui, mais justement, parmi les autres sites autour de l'étang de Berre, il y a aussi des sites industriels, toujours. C'est un étang qui est toujours, qui a d'ailleurs cette fonction depuis longtemps.
Tout à fait. Il y a deux grands secteurs qui sont encore très industrialisés, qui sont Berre et la Med. Donc la Med côté Martigues, et ces deux secteurs qui ont tout un réseau d'usines en fait, mais qui à la fois aussi peuvent avoir des zones naturelles en leur sein, ce qui est le cas de Berre, et ils peuvent avoir d'ailleurs des gestions de faune-flore sur certains secteurs notamment.
Dans le site industriel.
Oui, dans le site.
Tu peux juste nous rappeler ce que c'est comme type d'activité?
C'est de la pétrochimie.
D'accord.
C'est un secteur historique de pétrochimie en France, avec les grands sites des
années 50-60. Ouais. C'est le déport du port de Marseille, en fait, avec un terminal de fosse qui fait à la fois la pétrochimie et la métallurgie. Et c'est un gros bastion du secteur. C'est un gros employeur, d'ailleurs.
De la région.
De la région, oui.
Tu m'avais raconté précédemment une histoire de ces tortues qui avaient disparu du relevé, si je me souviens bien, ou d'une espèce que vous n'arriviez plus à retrouver sur le relevé et qui en fait était peut-être allée dans la zone militaire. C'était pas la tortue.
C'est cette tortue-là de la Cistude d'Europe, effectivement. Elle a un comportement qui est assez étrange, on avait insoupçonné, c'est-à-dire qu'en période de sécheresse accrue, en fait, elle vient se réfugier dans la zone militaire. Et c'est assez atypique parce que nous, on la voyait vraiment en bord d'étang, puisque c'est une espèce qui affectionne plutôt les eaux saumâtres, c'est-à-dire des eaux qui ne sont pas très salées, mais qui ne sont pas douces non plus. Or, dans la zone militaire, ça devient de plus en plus... Sans sel. ça devient de l'eau douce.
Oui.
Et du coup, elle se réfugie là une partie de l'année.
D'accord. Oui, ce qui m'étonnait aussi au départ, parce que c'était censé être la zone la plus polluée du site.
Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'on a identifié un secteur à la sortie de la zone militaire, qui est un secteur accessible pour nous, comme un ancien canal qui est assez pollué, même de visu, on le voit très bien, la terre est rouge, l'eau est particulièrement trouble, tout ça. Et on a des restes de réseaux électriques avec de l'aluminium, des huiles un peu grasses.
D'accord.
Et pour autant, c'est un secteur où on a trouvé énormément d'espèces... intéressante, oui. Une plante aquatique protégée,
oui. La
Zanichella.
Ah oui.
On a trouvé une libellule, la Cordulea corfa. Mm-hmm. On a la Cistude d'Europe qui se balade, qui transite par ce canal. Donc c'est assez atypique. Ouais.
Alors peut-être parce que le canal est aussi une voie d'accès à une zone où il n'y a aucun humain, du coup, il n'y a plus d'humains, et aussi peut-être que c'est très enfriché, j'imagine, donc très protecteur pour les, certaines espèces, peut-être.
Probablement, oui. Enfin, en tout cas, nous, on ne pense pas qu'il y ait un lien d'affinité avec la pollution. Ça.
Oui, voilà, c'est sûr. Avec la chose militaire, peut-être, je ne sais pas. Et alors, du coup, puisqu'on parlait des reptiles, il y a aussi, j'imagine, les lézards, des choses qui sont plus méditerranéennes, enfin, plus terrestres. Du gecko, on en a vu pas mal hier à Saint-Chamond.
Oui.
Dans la ville. Vous en avez ici, j'imagine.
On va laisser passer le convoi. On va laisser passer.
Attends, je vais appeler.